Chapitre 8. Le ciel était blanc, d'un blanc parfait, et l'odeur de la pluie imprégnait l'air. L'odeur des haies et des jeunes plantes était douce. On était au cœur du printemps, ce que d'aucuns appelaient la nouvelle terre. Sur le bras de Cuthbert était posé David, petit moteur de destruction aux yeux vifs et dorés qui rayonnaient sur le néant. La sangle de cuir brut attachée à ses pattes formait une boucle lâche autour du bras de Bert. Cort se tenait près des deux garçons, silhouette silencieuse, en pantalon de cuir rapiécé et chemise de coton vert, sanglé haut par sa vieille et large ceinture d'infanterie. Le vert de sa chemise se fondait dans celui des haies et des pentes gazonnées des cours arrière, où les dames n'avaient pas encore commencé à jouer au point. « Tiens-toi prêt !» murmura Orland à Cuthbert.
« On est prêt !» répondit Cuthbert avec assurance.
« Pas vrai, Davy ?» Ils utilisaient le bas-parler, le langage à la fois des marmitons et des écuyers. Le jour où ils seraient autorisés à employer leur propre langue en présence d'étrangers n'était pas arrivé. C'est la journée parfaite pour ça. Tu sens la pluie? C'est... Cort leva brusquement le piège dans ses mains et fit tomber la trappe latérale. La colombe sortit en flèche et s'envola vers le ciel en battant frénétiquement des ailes. Cuthbert tira sur la sangle, mais il fut trop lent. Le rapace était déjà parti, décollant avec maladresse. Il se rétablit d'un brusque coup d'aile, il monta en prenant appui sur l'air, gagnant de l'altitude, dépassa la colombe à la vitesse d'une balle. Cort rejoignit les garçons d'un air désinvolte et balança son poing énorme et tordu dans l'oreille de Cuthbert. Le garçon bascula par terre sans un mot, mais ses lèvres se retroussèrent et lui découvrirent les gencives. Un filet de sang s'écoula lentement de son oreille sur l'herbe verte et grasse. « Trop lent, l'asticot !» fit-il. Cuthbert tenta de se remettre debout. « J'implore votre pardon, Cort, c'est juste que je... » Cort frappa de nouveau, et Cuthbert retomba à terre. Le sang se mit à couler plus vite. « Utilise le haut-parler, » dit-il doucement. Sa voix était monocorde avec une légère lenteur due à l'alcool. « Énonce ton acte de contrition dans le langage de la civilisation pour laquelle sont morts des hommes bien plus valeureux que toi, l'asticot. » Cuthbert se relevait de nouveau. Les larmes brillaient vivement dans ses yeux, mais il serrait les lèvres en une mince ligne de haine qui ne vacillait pas. « Je suis en peine, » dit Cuthbert d'une voix où l'essoufflement était parfaitement maîtrisé. « J'ai oublié le visage de mon père, dont j'espère un jour porter les armes. »«
Bien dit, sale gosse, » répliqua Cort. « Tu vas réfléchir à ton erreur et la faim aiguisera ta réflexion. Pas de souper, pas de petit déjeuner. »«
Regardez !»
cria Roland en tendant le doigt vers le ciel. Le faucon avait dépassé la colombe en plein essor. Il plana un court instant, ses ailes courtaudes déployées et totalement immobiles dans l'air printanier, blanc et suspendu. Puis il replia les ailes et tomba comme une pierre. Les deux corps se mélangèrent, et l'espace d'une seconde, Roland crut voir du sang voler. Le rapace poussa un bref cri de triomphe. La colombe virevolta, se tordit et plongea au sol, et Roland se précipita vers l'oiseau, laissant derrière lui Cort et Cuthbert assagi. Le faucon s'était posé à côté de sa proie dont il déchirait d'un air suffisant le poitrail blanc et rebondi. Quelques plumes descendaient lentement en se balançant dans l'air.
« David ! »
cria le garçon en lançant au faucon un morceau de chair de lapin sorti de son sac. L'oiseau l'attrapa au vol, l'avala entier avec une torsion du dos et de la gorge, et Roland entreprit de le remettre à l'entrave. Le rapace tournoya, presque distraitement, et vint dessiner une estafilade sur le bras de Roland, soulevant un long lambeau de peau. Puis il retourna à son repas. En grognant, Roland enroula la sangle, cette fois en interceptant le bec acéré de David dans son gantelet de cuir. Il donna à l'oiseau un autre morceau de viande, puis l'enchaperonna. Docilement, David grimpa sur son poing. Il se releva fièrement, le faucon au bras.
« C'est quoi ça ? Tu peux me le dire ?»
demanda Corte en désignant l'avant-bras de Roland et l'entaille qui goûtait. Le garçon se positionna pour recevoir le coup, verrouillant sa gorge pour éviter de crier, mais aucun coup ne tomba.
« Il m'a attaqué, » dit Roland. « C'est toi qui l'as cherché, » dit Corte. « Le faucon ne te craint pas, gamin, et jamais il ne te craindra. Ce faucon est le pistolero de Dieu. »
Roland se contenta de regarder Corte. Ce n'était pas un garçon très imaginatif aussi. Si Corte avait glissé une morale dans sa remarque, elle lui avait échappé. Il alla même jusqu'à croire que c'était là une des quelques maximes stupides qu'il avait déjà entendu Corte énoncer. Cuthbert les rejoignit par derrière et tira la langue à Corte en veillant à ne pas être vu. Roland ne sourit pas, mais lui adressa un signe de tête. « Rentre maintenant, » fit Corte en reprenant le rapace. Il se retourna et pointa le doigt vers Cuthbert. « Mais souviens-toi que tu dois réfléchir, l'asticot, et jeûner aussi. Ce soir et demain matin. »«
Oui, » répondit Cuthbert d'un ton guindé. « Merci pour cette journée instructive. »
« Tu sais apprendre, » lança Corte. « Mais ta langue a la mauvaise habitude de pendre de ta bouche stupide quand ton instructeur a le dos tourné. Peut-être le jour viendra-t-il où toi et ta langue apprendrez à tenir vos places respectives. »
Il frappa Cuthbert de nouveau, cette fois-ci droit entre les yeux, un coup vigoureux, au point que Roland entendit un bruit sourd, le bruit que ferait le maillet d'une fille de cuisine en perçant un tonnelet de bière. Cuthbert tomba en arrière sur l'herbe, les yeux embrumés. Puis, ils redevinrent clairs et lancèrent à Corte un regard brûlant par en dessous. Oublié l'habituel sourire paisible, ne perçait que la haine à l'état pur, au cœur de chaque œil, une pointe d'épingle aussi vive que le sang de la colombe. Il hocha la tête et entr'ouvrit les lèvres en un rictus semblable à une scarification, un rictus que Roland ne lui avait jamais vu.
« Alors il y a de l'espoir pour toi, » dit Corte. « Quand tu penseras être prêt, viens me chercher, l'asticot. »
« Comment avez-vous su ?» demanda Cuthbert entre ses dents.
Corte se tourna vers Roland avec une telle rapidité que ce dernier bascula presque en arrière, et ils se seraient retrouvés à deux sur le gazon, à décorer la verdure de leur sang.
J'ai vu le reflet dans ses yeux d'asticot. Rappelle-toi, Cuthbert Allgood, la leçon est finie pour aujourd'hui.
Cuthbert hocha de nouveau la tête, le même rictus inquiétant sur les lèvres.
Je suis en peine. J'ai oublié le visage. Arrête-moi ces conneries.
Lança Corte lassé. Il se tourna vers Roland.
Filez maintenant, tous les deux. Si j'ai vos deux faces d'asticot sous les yeux plus longtemps, je vais gerber tripe et boyaux et gâcher un bon dîner.
Viens, fit Roland. Cuthbert secoua la tête pour s'éclaircir les idées et se remit sur pied. Corte descendait déjà la colline de sa démarche trapue, les jambes arquées, ce qui lui donnait un air puissant et quelque peu préhistorique. La partie rasée et grisonnante de son crâne luisait.
« Je le tuerai,
ce fils de pute, dit Cuthbert en souriant toujours. Un gros œuf, violacé et noueux, lui poussait sur le front dans un élan presque magique.
Ni toi, ni moi,
fit Roland, donnant brusquement lui aussi dans le large sourire. Tu n'as qu'à venir dîner dans les cuisines de l'aile ouest avec moi. Le cuisinier nous donnera quelque chose.
Il le dira à Cort.
Il n'est pas copain avec Cort, dit Roland. Puis, haussant les épaules, et puis même. Cuthbert lui rendit son sourire.
Ouais, tu as raison.
J'ai toujours eu envie de savoir à quoi ressemblait le monde avec la tête dévissée. Et ils partirent tous deux sur les pelouses verdoyantes, dessinant des ombres dans la splendide lumière blanche et printanière.